Bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'avoir choisi mon podcast Parlons santé mentale. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, là, moi, je vais merveilleusement bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, je m'appelle Francine Courchain, puis je suis éclaireuse de réalité. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'une éclaireuse de réalité, dans le fond, ce que je fais, c'est bien simple. J'aide les gens qui vivent de près ou de loin avec une réalité peut-être différente. Je les aide à avoir une vision plus futée, plus juste, plus éclairée sur un univers qui est peut-être pas tout à fait le leur. Mon but, c'est vraiment bien simple. Dans le fond, c'est d'approfondir les connaissances sur des sujets parfois délicats, voire même tabous. Parce que je suis persuadée que si on est mieux renseigné, on est en mesure d'avoir une meilleure écoute et par le fait même, on est mieux outillé afin de conseiller de façon plus brillante ces personnes-là qui vivent avec des défis de la vie. Puis peut-être que ça va défaire certains préjugés. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est ça. Moi, je m'appelle Francine Courchaine et je suis éclaireuse de réalité. Pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui, on va discuter de la dépression. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est quoi la différence entre une déprime, une dépression, un burn-out? Comment on fait pour s'en sortir? Vous êtes curieux, hein? Mais là, juste avant là, d'aller au vif du sujet, puis d'aller voir tout ça, comment ça se passe une dépression, ben, il y a une petite chose que je vais vous demander de faire. C'est d'aller cliquer sur le petit bouton suivre ou encore le bouton s'abonner. Ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Mais là, j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu de difficulté à faire ça. Ce qui arrive, c'est que vous pouvez, via le lien que vous avez cliqué pour écouter le balado, vous cliquez sur ce lien-là, ça vous apporte sur une plateforme. Vous sélectionnez, exemple, Spotify, et là, vous pouvez vous connecter via votre Facebook. En cliquant là-dessus, me connecter via mon Facebook. Par la suite, vous allez être en mesure d'aller cliquer sur le petit bouton suivre ou le bouton s'abonner. Là, ça paraît un peu compliqué comme ça, là, mais je vais le répéter. Dans le fond, vous cliquez sur le lien. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez voir un petit bouton qui est marqué Spotify, par exemple. Là, vous cliquez sur ce petit bouton-là. Il va vous demander, si vous n'avez pas l'application, il va vous demander de vous connecter via mon Facebook. Vous cliquez sur cette fonction-là et ensuite, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur le petit bouton suivre ou encore s'abonner. Tout dépend de la plateforme par laquelle vous voulez m'écouter, puisque mon balado, il sort sur différentes plateformes, comme par exemple Spotify, Google Podcast ou encore Breaker. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, une fois que c'est fait, ben vous allez vous garantir d'être au rendez-vous à chacun des épisodes. Puis c'est sûr et certain que vous voulez être là à chaque fois. Et là, si on partait ça, ce septième épisode, alors, suivez-moi, c'est parti! Hey, il nous arrive tous d'être tristes, d'être en colère ou d'avoir envie de ne rien faire. Bref, là, de ne pas filer. Mais est-ce que ça veut nécessairement dire que nous sommes dépressifs? Bien sûr que non, heureusement. Il est normal de temps à autre d'être dans un sale état, de filer maussade, d'être déprimé. Et ce, peu importe la raison, que ce soit la perte d'un emploi, le temps gris qui finit plus, les longs jours d'hiver, ou encore la situation dans laquelle nous sommes tous présentement avec le fameux COVID. Là où il faut s'inquiéter, c'est lorsque ce sentiment lourd perdure dans le temps. Puis qu'en plus de ça, là, on a le sentiment qu'on est bon à rien. Ou encore qu'on n'arrive jamais à faire quoi que ce soit qui est bien. Ou si on n'a plus de projet pour le futur. Peut-être qu'à ce moment-là, on parle de dépression. Saviez-vous que la dépression est l'un des troubles psychiatriques les plus répandus? D'après une enquête menée par les autorités de la santé publique du Québec, environ 8 % des personnes âgées de 12 ans et plus, c'est pas vieux ça, 12 ans, mais toujours est-il qu'ils ont rapporté avoir vécu une période de dépression au cours des 12 derniers mois. Puis, selon Santé Canada, environ 11 % des Canadiens et 16 % des Canadiennes vont souffrir d'une dépression majeure au cours de leur vie. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2020, la dépression est devenue la deuxième cause d'invalidité à travers le monde, après les troubles cardiovasculaires. La dépression peut survenir à tout moment, y compris dans l'enfance. Mais souvent, la première fois, ça va arriver plus vers la fin de l'adolescence, là, au début de l'âge adulte. Mais qu'en savez-vous au sujet de la dépression? Savez-vous faire la différence entre la dépression et un burn-out? Bien, dans l'épisode qui suit, on va démêler tout ça. Alors, curieux d'en savoir davantage? Suivez-moi, c'est parti! La dépression, la fameuse dépression. Comme je l'ai dit en introduction, il nous arrive tous de filer maussade, down. Mais tu sais, pas down dans le sens de game. Tu sais, comme les jeunes ont tendance à dire de cet ainsi, mais plutôt down, comme dans le sens de avoir le moral à plat. Ça, c'est normal. Ce qui l'est moins, c'est quand on a ce feeling-là depuis bien trop longtemps. Puis qu'en plus, on a de la difficulté à se gérer. Dans le fond, là, faut pas se le cacher, la dépression, c'est une maladie. Mais quels sont les signes et les symptômes? D'abord, il y a des signes au niveau physique et d'autres au niveau psychologique. Au niveau physique, on a un manque d'énergie ou on a une grande agitation. On se sent fatigué. On a un manque d'appétit ou encore on a une grande appétit. On a une diminution de la libido, voire même on n'est pas tout intéressé au sexe. On a de la difficulté à contrôler notre poids. On a des douleurs au dos. On a des maux de tête puis qui sont là depuis peu. Ça vient de survenir. On a des douleurs à l'estomac. On a des troubles de sommeil. Soit on dort trop ou on dort pas assez. On a des douleurs aux articulations. Ça, sans même faire de l'arthrite ou de l'arthrose ou tout autre problème du genre. On a l'impression qu'on fonctionne au ralenti. Au niveau psychologique maintenant, on a le sentiment de ne plus avoir de fun avec personne. Pas même nos meilleurs amis, même pas avec notre famille. on a une grande tristesse. On pleure pour tout et pour rien. On pleure sans arrêt. On a de la misère à arrêter de pleurer, même si on pleure pour des riens. On a l'impression de ne pas être nous-mêmes. On a l'impression d'être inutile, que notre vie vaut à rien. Tu sais, notre estime de soi, là, ben, capote, n'a plus d'estime de soi, ou presque plus. On a l'impression d'être lourd pour tout le monde, puis en plus de traîner tout le monde dans nos problèmes. On a le sentiment d'être coupable, puis d'être voué à l'échec. On a de la difficulté à se concentrer sur une tâche, une seule tâche, même si c'est super simple. On a de la misère à la faire. On a de la difficulté à prendre des décisions. On se sent à bout. On a goût de rien faire. Tu sais, tout ce qu'on doit faire, même si c'est super facile, ça nous semble bien trop dur à accomplir, à faire. Même si c'est de se lever de son lit le matin. On a des idées suicidaires ou des idées noires, comme moi par exemple. Puis là, je vous parlerai de mon expérience de dépression un petit peu plus tard, mais mes idées n'étaient pas nécessairement suicidaires, mais j'avais des idées de tout quitter. De m'en aller à l'autre bout du monde, le plus loin possible, sans mon mari, sans mes enfants, sans mes amis, de la chenoute. Moi, je m'en vais à l'autre bout du monde, j'abandonne tout. Ma job, mes enfants, mon mari, tant pis. C'était ça, mes idées. Je voulais pas mourir, mais je voulais fuir au plus loin possible toutes mes responsabilités. Pour être en dépression, il faut que nous ayons plusieurs de ces symptômes depuis au moins 2 semaines. Bien évidemment, là, on ne peut pas se diagnostiquer en dépression. Là. Il faut aller consulter un médecin absolument. C'est bien beau tout ça, mais quelles sont les causes à la dépression? Bon, tout d'abord, là, il faut savoir que la dépression, c'est pas causé par un seul et unique facteur. Souvent, ça va être une combinaison de facteurs. La dépression, là, c'est une maladie très complexe. Dans le fond, il y a 4 types de facteurs pour lesquels une personne peut devenir dépressive. Il y a les facteurs individuels, les antécédents familiaux, l'hérédité, la génétique, le fait d'avoir déjà été atteint par la dépression, le fait d'avoir d'autres maladies comme les troubles anxieux, les maladies cardiovasculaires, le cancer, la maladie de Parkinson, l'arthrite, les maladies pulmonaires, puis d'autres maladies chroniques. Notre sexe, hein, notre identité sexuelle. Bien, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de dépression que les hommes. Il y a aussi les événements traumatisants de notre enfance, les abus, la négligence, la violence, le divorce. Bon, il y a aussi que ce soit le divorce de nos parents ou encore notre propre divorce. Il y a les facteurs sociaux. Le stress, c'est-à-dire la perte d'emploi, le décès d'un proche, la pression de notre employeur, la situation actuelle avec la COVID. Les personnes à faible revenu sont plus susceptibles d'être atteintes de la dépression. Et oui, hein? Quand on n'arrive pas, là, puis qu'on n'a pas d'argent, et le stress pop, oui. En ce moment-là, c'est plus facile d'être atteint de dépression. Les personnes qui sont seules, la solitude, les journées sont longues, c'est pas le fun d'être seul tout le temps. Ça aussi, ça peut nous mener à une dépression. Il y a les facteurs environnementaux, comme le fait de consommer de façon abusive les drogues et l'alcool. Le fait aussi qu'on ne fait pas assez d'activité physique, qu'on soit toujours plugué sur la télé, sur les réseaux sociaux. peut nous mener aussi à une dépression. Il y a biologiquement parlant. Le cerveau, là, c'est super complexe, mais on va observer chez les personnes qui sont dépressives soit un déficit ou un déséquilibre de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine. Puis ça va faire en sorte que ça va perturber la communication entre les neurones. Il y a d'autres problèmes comme la perturbation hormonale, soit par la prise de pilules contraceptives, par exemple. Ça aussi, ça peut faire en sorte qu'on peut devenir dépressif. Bon, comme tout le monde le sait, là, il existe plusieurs troubles dépressifs. Il y a la dépression majeure. Ça, c'est le trouble le plus fréquent. Bon, dans ce cas-là, la personne atteinte vit avec les symptômes dont je vous ai parlé plus tôt. Bien, la tristesse, le désespoir, le manque de concentration, la fatigue, les idées noires, etc. Puis ça, à tous les jours presque, puis pendant toute la journée, ou presque. Mais heureusement, si la personne est prise en charge correctement, bien là, elle pourra se rétablir. Parce que sinon, bien, elle peut aller jusqu'au suicide. Il y a aussi la dépression saisonnière. Bon, dans ce cas-là, c'est une dépression qui est due à un manque de lumière naturelle. On le sait, souvent ça va débuter là, vers le mois de novembre, puis ça va finir vers le mois d'avril-mai. Ça touche environ 5% des adultes au Canada quand même. Bien, pour contrer à cette dépression, on peut faire une luminothérapie, c'est s'acheter une lampe. Et puis là, faire de la luminothérapie ou profiter de chaque instant de soleil qu'on peut. Hein? Aller prendre une marche au soleil, s'étendre au soleil, profiter de Monsieur Soleil le plus possible. Il y a également aussi comme forme de dépression le fameux postpartum. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que quand la femme va accoucher, son taux d'hormones va baisser de façon drastique. Puis là, bien, c'est ça qui va faire en sorte que la nouvelle maman va se sentir dépressée. À ça, on va ajouter peut-être aussi l'anxiété, hein, la nouvelle vie là, qui vient de commencer. Est-ce que je vais être capable de m'occuper de ça, moi, ce petit bébé-là? En fait, là, c'est environ 70% des femmes qui vivent un postpartum. Puis habituellement, là, ça va durer à peu près 2 semaines. Ça, c'est super normal. Et moi, dans mon cas, à moi, là, dans le fond, pour faire une petite histoire courte, mon premier postpartum, bon, ben, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, de un, je tombe enceinte assez rapidement. J'ai pas eu temps de m'habituer à la nouvelle relation, que déjà j'étais enceinte. Puis pas longtemps après, bon, mon premier bébé est né en septembre. Je vous dirais, mettons, en janvier ou en février, on est déménagé à 8 heures de route de chez nous parce que lui, il avait obtenu un poste important là-bas. Puis là, rendu à Pâques, là, le bébé, il est pas bien ben vieux, là, en avril. Bien là, c'est là que je l'ai senti, mon postpartum. Mais c'est sûr que moi, j'avais vécu plein de changements. Une nouvelle relation, un déménagement à 8 heures de route. Là, je m'étais coupée de toutes mes racines ici. Puis là, j'étais devenue maman aussi. Fait que j'avais pas besoin de dire là, que c'était assez important comme dépression suite à mon accouchement. Mais ça a été pas tout de suite dans les premières heures. Ça a été comme en avril. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me foutais de mon bébé. Le père s'en occupera. Je m'en retourne dans ma région à pied. Je laisse le char. Et je me suis ramassée au poste de police. Puis là, j'ai fait un séjour d'une fin de semaine. C'était à Pâques, fait que, mettons, je suis rentrée comme le jeudi peut-être, puis je suis ressortie le lundi ou le mardi en cause du congé Pascal à l'hôpital. Parce que moi, je me suis ramassée au poste de police. Je me suis dit, les policiers, eux autres, ils vont m'aider à monter dans ma région. Fait que, ben c'est ça, j'étais petite là. Ils ont pris soin de moi. Puis j'ai pris de la médication pour m'aider à me sortir de mon postpartum. Mais normalement, là, ça dure 2 semaines, comme je viens de le dire. Parce que, regarde, mon deuxième bébé, j'ai des souvenirs vagues du postpartum où est-ce que je voulais plus mes deux enfants. Le père s'en occupera, mais j'en ai parlé au médecin, j'en ai parlé avec des amis qui venaient d'accoucher aussi. Puis, ben, cette déprime-là, puis ce désir de plus vouloir avoir mes enfants, ben, ça a duré ça peut-être bien 2 semaines, peut-être 3 semaines, gros max. Mais c'est tout à fait normal. Il y a un autre type de dépression aussi, c'est le deuil. Et c'est tout à fait normal puis sain de faire un deuil. Il faut faire cette étape-là. C'est super important. Surtout là, quand on perd une personne super proche. Puis plus la personne est proche ou a été importante pour nous autres, mais plus cet état de dépression va durer longtemps. Normalement, là, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Puis ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Toutefois, si au bout de 2 mois, on n'est pas encore en mesure de reprendre les activités de la vie au quotidien, bien là, on doit aller consulter. Ou encore, si les signes de la dépression perdurent dans le temps, on va aller voir notre médecin, puis là, bien, lui, il va nous aider. Hein, à traverser cette étape difficile de la vie, hein, de traverser au travers du deuil. Un autre type de dépression, c'est le trouble dysthymique. Dans le fond, c'est un dysfonctionnement au niveau de notre gestion de notre humeur. Bon, ce qui arrive, c'est qu'on se sent dépressif, puis que ça dure au moins 2 ans. Mais qu'on n'a pas les symptômes de la dépression majeure. C'est un peu complexe, j'y connais pas grand-chose, fait que je vais passer vite à l'autre type de dépression. Il y a la dépression anxieuse. En plus des symptômes de la dépression normale, on va ajouter de l'appréhension. On va appréhender plein d'affaires, plein de situations. On va être aussi. On va vivre aussi avec de l'anxiété de façon excessive. Un autre trouble de dépression, c'est la maniaco-dépression. Hein, vous vous préparez, maintenant on appelle ça la bipolarité. Ben, je vais en parler brièvement parce que je vais consacrer un épisode complet là-dessus dans quelques semaines. Mais en gros, là, on le sait, c'est une personne qui est atteinte de périodes dépressives. Donc, elle va le déprimer, elle va être down, puis tout ça. Puis, par la suite, paf, du jour au lendemain, période de maniaque. Puis là, elle va être sur un high, surexcité. Bref, là, le jour puis la nuit, on ne va plus reconnaître la personne. Paf, tu étais déprimé, dépressif. Sur un down, puis paf! Sur un high, pépé, surexcité, puis prête à faire le party. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça ressemble à ça, la maniaco-dépression, ou maintenant on appelle ça la bipolarité. Bon, ça c'était les types de dépression. Bien évidemment, vu en vol d'oiseau, parce que en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Mais comme je ne veux pas trop parler à travers de mon chapeau, je vais donc enchaîner avec les complications pour ensuite venir vous parler du fameux burn-out. Puis, je vais vous raconter, comme promis, mon histoire avec la dépression, ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu ça. Et je vais terminer cet épisode en vous parlant, bien évidemment, des traitements, puis où aller consulter, puis quand il faut aller consulter. Bon, La petite mise à jour est terminée. Les complications maintenant. Bien évidemment, la première complication, le risque de récidive. En fait, là, 50 % des personnes, la moitié des personnes qui ont vécu une dépression risquent d'en faire une autre au courant de leur vie. Mais c'est sûr que le taux de récidive va diminuer si la personne atteinte va consulter. Puis en plus de ça, elle prend des précautions afin d'éviter de tomber en dépression à nouveau. Exemple, bien, de changer ses habitudes de vie, hein? De prendre du soleil, de changer nos idées, hein? De ne pas prendre des trop grandes charges de travail, mais d'y aller à son rythme. Ce sont quelques petits exemples afin d'éviter de déprimer encore une fois, puis de tomber dans la dépression. Mais dans d'autres cas, la dépression peut se développer puis devenir chronique. Ça veut dire qu'on fait des dépressions par-dessus dépression, par-dessus dépression. On a beau essayer de tout changer, mais on dirait que notre système maintenant est rendu fait comme ça. Et puis, une autre complication à la dépression est bien malheureusement le suicide. Le fameux suicide. D'ailleurs, c'est le sujet, si je ne me trompe pas, là, de la prochaine épisode. On va aller de fond en comble parler du suicide. Mais saviez-vous qu'il y a environ 70 personnes qui décèdent par suicide parce qu'ils étaient dépressifs? C'est beaucoup, hein? Les hommes en dépression de plus de 70 ans sont les personnes les plus à risque de se suicider. Mais même si la plupart des gens qui ont une dépression, ils ont des idées suicidaires, souvent ils ne vont pas faire de tentative non plus. Mais il faut quand même garder l'œil ouvert parce que c'est quand même un signe d'alarme. Tu sais, faut être vigilant puis regarder ça aller, poser des questions à cette personne-là. C'est quoi il veut faire, comment il veut le faire, quand il veut le faire, etc. Faut avoir l'œil ouvert, c'est important. Dans le fond, les personnes qui vont penser au suicide, là, ce qu'ils veulent, là, c'est d'arrêter de souffrir. Parce qu'ils vivent une situation dans laquelle tout leur paraît insupportable. Mais en tout cas, je vais en parler, comme je viens de dire, là, je vais en parler dans 2 semaines du suicide. Là, hein, si on poursuivait avec le fameux burn-out. C'est quoi la différence entre la dépression puis le burn-out? C'est-tu vrai que burn-out, finalement, c'est dépression, mais en anglais? Ou encore, est-ce que c'est vrai ça que le burn-out, c'est associé au travail, mais que la dépression, pas nécessairement? Bon, c'est ça. Dans le segment qui suit, justement, là, je vais vous expliquer ce que c'est, en fait, le burn-out. Le burn-out et la dépression sont deux thèmes qu'on mélange de façon régulière. Mais pourtant, ce sont deux choses différentes. Donc, le burn-out, c'est pas du tout le terme anglais pour dire dépression. J'ai souvent entendu dire, mais la différence entre les deux, c'est que le burn-out, dans le fond, c'est le terme anglais. Ben non. Hein? On les mélange souvent parce que les symptômes sont semblables, voire souvent identiques. Mais il existe des différences subtiles, hein, qui vont permettre de faire la différence. Souvent, là, c'est peut-être même le médecin qui va être plus avoir l'œil agile, peut-être, pour dire « Ah, ça, c'est plus un burn-out » ou « Ça, c'est plus une dépression ». Parce que la ligne, elle peut être mince entre les deux. Mais pour ceux qui disent « Ah, burn-out, c'est plus associé au travail », bingo! Hein? C'est vrai. Une personne qui va souffrir de burn-out, elle va être disposée à travailler. Elle peut aller travailler. Mais ce qui arrive, c'est que elle n'a pas l'énergie, est épuisée, est exténuée. Tandis que, mettons, dans le cas d'une dépression, la personne va avoir de l'énergie, mais elle n'aura pas le goût d'aller travailler. Vous voyez? C'est fait que, oui, le burn-out est associé au travail, mais autant une dépression qu'un burn-out, tu sais, ça peut être aussi associé au travail. Est-ce que t'as pas le goût d'aller travailler ou t'as pas assez d'énergie pour aller travailler? Une personne qui souffre d'un burn-out, elle va être active le matin. Mais plus que la journée va avancer, ben là, elle aura de moins en moins d'énergie. Tandis que la personne dépressée a été sur le down toute la journée, puis quand elle arrive le soir, là, elle est plus active. Là encore, là, ben ça peut dépendre des personnes. Chaque personne est un peu différente, mais c'est un peu ça, dans le fond, la différence. La dépression, t'as pas nécessairement un manque d'énergie, tandis que le burn-out, oui. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Mon histoire à moi, dans le fond, moi, il y a à peu près 2-3 ans, j'ai tiré la plug. J'étais allée travailler un matin, puis j'ai fait, non, moi, je m'en vais. Ça fait 18 ans que je travaille en garderie. J'ai aussi un enfant avec des troubles de comportement. Donc, j'avais l'impression là, que j'étais 24 heures sur 24 dans ma job. Être éducatrice à la petite enfance puis avoir un enfant avec des troubles de comportement, 24 heures sur 24 dans la même job. Je travaille, je gère des crises, j'arrive à la maison, je gère des crises. Quand que je suis devenue parent, ben j'étais déjà éducatrice à la petite enfance. Je savais que ce genre de situation-là était pour arriver, mais pour un laps de temps. Quand mon enfant était pour avoir 2 ans, quand mon enfant était pour avoir 4 ans, tu sais, je me disais, quitte à ça, je demanderais à mon boss de me changer de groupe d'âge, puis l'affaire va être ketchup. Mais avec un enfant avec trouble de comportement, t'as beau pas avoir les 4 ans, gérer la garderie, mon enfant a beau avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais quand elle est en crise, elle a 3 puis 4 ans. Fait que je gère pareil, la même affaire tout le temps. Moi, dans mon cas, quand j'ai tiré la plug, bon, mais mon médecin a dit dépression moyenne parce que moi, j'avais pas des idées suicidaires, mais j'avais le goût, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, moi, j'avais le goût de m'en aller. M'en aller, là, vivre genre au Japon ou je sais pas où. Loin, tu sais, dans le fin fond de la forêt en Amazonie, tu sais. Puis d'abandonner mes 2 enfants à mon conjoint, puis il s'arrangera avec ça. Moi, je me repose de la garderie, puis j'avais toujours mon désir de un jour j'aurai ma garderie. Fait que je pensais pas à ce moment-là que ça pouvait être un burn-out. Puis là, ben, j'ai dû, parce qu'avec mon enfant avec des troubles de comportement, j'en ai parlé souvent, là, un trouble du lien d'attachement, mais moi, j'étais épuisée. Non, j'étais pas épuisée, j'étais exténuée. nuée, tu sais, au bout, là, essoufflée. À un point tel que moi, là, me lever le matin, là, et c'était l'enfer. Je pleurais tout le temps. Et j'étais la langue à terre, épuisée. Et j'avais de la misère à m'occuper de moi-même. Fait qu'imaginez-vous de m'occuper de mes deux enfants. Puis pour mon enfant avec des troubles de comportement, je l'ai déjà dit, mais j'ai une intervenante. Je la vois de façon régulière, aux 2 semaines. Puis je pense même à ce moment-là, c'était aux semaines que je la voyais. Puis à un moment donné, je suis arrivée dans son bureau. Je pleurais, pleurais, pleurais. Puis là, elle a dit, est-ce que tu aimerais... Elle m'en avait parlé, je pense, une semaine avant ou quelque chose du genre. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse tes démarches pour placer ton enfant en famille d'accueil? Et là, je me suis mis à pleurer, puis je fais oui! Je vous le dis, là, je pleurais. Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui était déchirée. Hey, j'abandonne mon enfant qui a un trouble du lien d'attachement. Déjà, encore un autre abandon pour elle. Puis d'un autre côté, j'étais comme, all right, je vais pouvoir dormir, m'occuper juste de ma plus vieille qui me donne pas de trouble. Puis, ça paraît peut-être égoïste, mais à ce moment-là, là, j'en pouvais plus. C'était soit ça, ou soit que je tire la plongue, là. Je voulais m'en aller à l'autre bout du Japon, mais à l'autre bout de l'Indonésie ou je sais pas où. Mais si j'avais continué à pédaler, là, à garder, j'avais de l'eau, là, par-dessus la tête, là, je suis pas capable de manger, là, pour remonter en dessous de l'eau, là. Je sais pas, moi, ce qui serait arrivé si j'avais pas pris la décision de la garder avec moi. Parce que moi, là, j'étais pas solide sur mes pattes, là. J'avais, à ce moment-là, aussi un nouveau conjoint. Fait que lui, il était pas trop, trop solide dans la gestion des enfants, pis tout ça. Fait que moi, pas solide, mon conjoint pas solide, mon enfant qui a un trouble du lien d'attachement, là, elle, là, elle se sentait pas solide ni à gauche ni à droite, là. Elle pouvait pas s'appuyer sur mon conjoint, puis elle pouvait pas s'appuyer sur sa mère qui était fragile, puis on n'en parle même pas du père qui avait une fin de semaine, 24 heures, qui lui, il est zéro solide pour gérer la petite, tu sais. Ça fait que, là, j'avais comme pas le choix. J'avais pas le choix. Il fallait que je la place en famille d'accueil. C'était un choix déchirant. Il a fallu que le père y signe. Le père y a signé. C'était pendant une période de 1 mois. Là, on est en janvier. On est en janvier parce qu'elle est revenue pour la Saint-Valentin. Fait qu'on est en janvier. Et c'est sûr que ça a été difficile, mais... Puis qu'aujourd'hui, elle me le reproche, puis à minute qu'elle me sent fatiguée, elle a peur que je tire la plug une fois encore de plus, puis que je la replace. Mais là, j'étais vraiment trop au bout du rouleau. Et c'était très, 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 très important que je garde le contact avec mon enfant à tous les jours. À tous les jours, il fallait que je l'appelle. Je la voyais à toutes les fins de semaine si j'aurais voulu je pouvais l'appeler tout le temps, la voir à tous les jours, je pouvais pas parce qu'il fallait que je me repose. Mais, en tout cas, ça a été apporté. C'était un choix déchirant, un choix difficile, mais un choix bénéfique au bout du compte. Et là, ben, au bout des mois, elle est revenue, mais moi, là, je suis un peu reposée, mais la dépression n'est pas finie, là. Et à chaque fois, j'allais voir mon médecin, elle me disait, je ne veux pas que tu dormes parce que il faut pas que tu dormes. Tu dors la nuit, puis le jour, je ne veux pas que tu dormes. Et là, dans ma tête, je me disais, c'est une folle, elle. Moi, là, j'ai le goût de dormir. Mais je vous le dis, là, même si mon médecin me disait de ne pas dormir, de me trouver des activités à faire, de sortir, prendre le soleil, tout ça, je m'en sentais incapable de le faire. Je pleurais. Je dormais. Je disais, la chenoute, mon médecin. Non! Mais quand je retournais la voir, elle me disait, pis, c'est quoi les activités que t'as faites, puis tout ça? Ben, je disais, écoute, je t'ai pas écouté. J'ai dormi. Il y a des fois, les premières fois, elle me dit, t'as bien fait de te reposer, Mais là, c'était la prochaine fois, là, on se voit dans 2 semaines ou on se voit dans 3 semaines, je me souviens plus. Puis là, je veux que la prochaine fois, tu me dises que tu as fait une activité. Ne serait-ce qu'on parle d'activité ici, là, genre faire la vaisselle. Pas passer la journée en pyjama. Prendre 5 minutes de ton temps pour t'habiller, puis aller dehors, marcher, respirer. 5 minutes. OK. Et là, elle, ce qu'elle visait, c'est de me retourner le plus rapidement possible au travail. Ce qu'elle me disait, c'est que les amis à la garderie avaient besoin de moi, que j'étais pour me sentir valorisée. Fait que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait en sorte que pour retourner le plus rapidement possible sur le marché du travail à la garderie. Fait que j'ai fait mon 3 mois où est-ce que j'étais en arrêt de travail pour me reposer. Bon. Et je suis retournée à la garderie. Quelle mauvaise idée! Mais moi, je suis pas retournée voir mon médecin. Non, non. Mais je suis retournée travailler. Bon. Là, on était rendu. C'était l'été, probablement, là, pas loin de l'été. Elle a peut-être étiré mon congé un petit peu. Décembre, janvier, février, mars. Je pense qu'elle a étiré mon congé là, d'invalidité, là. On était rendu au mois de mai, juin. On attendait que le soleil arrive, là, puis que le soleil était pour rester là. T'sais. Fait que je pense, mai-juin, je pense que je te retourne au travail. Ben, à temps partiel aussi, tu sais, une journée ou deux par semaine, en tout cas, pour que rendu au mois d'août, là, ou je sais pas quand, en tout cas, juillet, que je travaille à temps plein, ou je sais pas quoi, en tout cas. Je me souviens plus, là, ça fait déjà plusieurs années. Mais, en tout cas, fait que là, je retourne au travail de façon progressive jusqu'à temps plein. Puis là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Fait que du jour au lendemain, paf, je lâche ma job. Je me sentais épuisée à chacune des journées. Puis j'étais convaincue à ce moment-là que c'était mon employeur. Cette fille-là, pas capable. Fait que je change de garderie. Je vais travailler pour une autre garderie. Fait que là, je me sens mieux. Ah, je dis, ah, ben c'est ça, c'est l'employeur. Finalement, fait que là, mettons septembre, octobre, ça va bien. Mais novembre, je commence ma journée, là, puis ma batterie est à 75%. Puis 9 h, la collation, là, ben, est déjà rendue 50%. Puis à 1 h, à la sieste, là, 25%. Puis à 4 h 30, là, quand je m'en vais, là, est à 15% par flash. Fait que là, il faut que je fasse le reste de ma journée, là. Parce que j'ai mon enfant chez nous, là. J'ai mes 2 enfants chez nous. Heureusement, j'en ai une qui comprend, puis qui est autonome, puis qui fait ses petites affaires, puis qui ne fait pas de crise, mais l'autre qui fait des crises par-dessus crise, par-dessus crise, par-dessus crise tout le temps. J'arrive chez nous le soir, là, ma batterie, elle flash déjà. Je me couche le soir, là, elle est à 1%, là. Fait, couche-toi, là. Et, ben, là, à un moment donné, ben, je change encore d'emploi, je change de garderie, nouveau défi, oups! Hein, nouveau défi. Et là, je me dis, non, là, moi, je veux être directrice parce que c'est en cause que je suis éducatrice. En étant directrice, j'aime encore ça, nanana, nanana. Et je finis par être directrice adjointe. Mais j'étais pas mieux. J'étais pas mieux. J'arrivais le matin à chaque nouveau. J'étais crinquée, là. J'avais de l'énergie. Mais vite, vite, au bout de quelques semaines, j'étais vite, 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 la batterie descendait, descendait, descendait. Et depuis, dans le fond, tout ça s'est passé, là, mettons, en 3 ans, tout ce que je viens de vous raconter, là. La fois où j'ai tiré la plogue. Puis, dans le fond, ça fait 3 ans en décembre, la fois où j'ai tiré la plogue, j'ai dit à mon médecin que j'étais en dépression. Bien, mon médecin m'a dit que j'étais en dépression. Puis, jusqu'à temps que je me suis rendu compte que finalement, c'était un burn-out, je me suis rendu compte de tout ça l'année passée, quand la pandémie, elle est arrivée et que là, j'étais obligée de tirer la plogue en cause que la pandémie. Bon, la garderie où ce que j'étais devenue directrice adjointe, bon, elle s'est vendue. Finalement, la nouvelle propriétaire m'a pas gardée. Et c'était la meilleure des choses au monde parce que je me suis rendu compte que j'étais en burn-out, que je suis en manque d'énergie tout le temps parce que je me suis surmenée. Parce que, dans le fond, je suis plus capable de travailler en garderie. Je suis allée jusqu'au bout de cette expérience-là, mais j'ai trop persisté pour travailler en garderie, en changeant de garderie, d'une garderie à l'autre. Peut-être que ça va changer quelque chose. Ben non. Hein? En changeant de poste, ça va peut-être changer quelque chose. Ben non. Chez nous, la situation, elle est difficile avec mon enfant qui a des troubles de comportement, qui, soit dit en passant, va de mieux en mieux, mais quand même, cette charge de travail comme maman, elle est très, très lourde. Et la charge de travail à la garderie, ça devenait comme trop lourd pour moi. Fait que c'est un burn-out que je fais. Ça a commencé par des signes et des symptômes de dépression. Et je me suis rendu compte que c'est un burn-out. Moi, là, il faut absolument que je change de branche parce que je ne peux plus retourner à la garderie. Est-ce que j'aime ça, travailler à la garderie? Oui. Est-ce que j'en suis encore capable? Non. Parce que c'est trop demandant. J'ai trop tiré, là. J'ai trop tiré la tire, Sainte-Catherine, qu'on disait à ma fille, là. Puis là, il est trop tard. Mon retour à la garderie, je ne retournerai plus à la garderie. Au début, quand j'ai été arrêtée pour dépression, il y a 3 ans, quand j'étais arrêtée pour la dépression, puis que ma fille, elle était revenue chez moi, mes enfants m'ont demandé de faire des activités, puis le médecin m'a demandé de faire des activités. Fait qu'on est allé à ISO, tu sais, cette espèce d'aire de jeu intérieur où les enfants peuvent jouer, sauter, dépenser leur énergie là. J'ai dit, all right, je vais aller là, je vais aller m'asseoir à une table, mes enfants vont dépenser leur énergie. Mais ça, c'est le genre d'activité qu'on fait en sortie à la garderie. Je voulais mourir. Pas dans le sens que j'avais des idées suicidaires, là, mais je me sentais vraiment pas bien. J'avais juste le goût que l'heure pour laquelle j'avais payé, finish. J'étais pas bien. Une chose que mon chum était là parce que je voulais partir de là. Je voulais brailler ma vie en boule, en plein milieu du high salt, oui. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, non, non. Non, moi, c'est trop. Faut que je me repose plus. Je vais faire d'autres petites activités, mais qui n'ont pas en lien de me retrouver entourée d'enfants comme si je me retrouvais comme une éducatrice. C'est sûr que si j'avais été éducatrice en sortie, je serais dans les trampolines ou proche des trampolines avec les enfants. Tu sais, j'aurais surveillé mon groupe, là. Mais cette fois-là, c'en est trop. On va faire toutes sortes d'autres activités, là. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'enfants. Faut pas, tu sais, que ça dure trop longtemps. Faut pas que je me sente comme une éducatrice qui accompagne mes enfants dans une activité. Fait qu'on va pas au verger. On n'ira pas à la cabane à sucre. On n'ira pas à un endroit où c'est bourré d'enfants. Les fêtes de quartier, on oublie ça, tu sais, quelque chose là. Non, non. Mais les enfants ont trouvé ça difficile, mais là, ils sont habitués. Puis aujourd'hui, pour éviter de retomber trop fatiguée, retomber dans une dépression. Je fais attention. Je fais attention au nombre d'heures que je travaille dans une journée. Je fais attention aux activités que je choisis. Comment je me sens, est-ce que je suis en mesure d'aller là avec mes enfants? Est-ce que je vais être atteinte psychologiquement par ça ou pas? Mais là, Ça fait déjà un bon bout. Fait que maintenant, aller au high saute, c'est correct. Je peux y aller. Aller d'arbre en arbre, faire une sortie avec les enfants, ou est-ce que plein d'enfants, une fête d'enfants, c'est correct. Mais au début, je ne pouvais pas. Fait que j'évitais ça jusqu'à temps que je sois plongée de façon progressive. Mettons, une fête d'enfants, mais pas toutes les amis. Tu sais, moins d'amis. Bon, là, j'y allais un petit peu. Puis là, ben aujourd'hui, ça va. Je suis capable de faire ça, mais je sais que je ne peux plus travailler en garderie. J'ai bien assez de mon enfant avec des besoins particuliers que je n'ai pas besoin de m'ajouter une charge supplémentaire en gérant les crises des autres enfants à la garderie. Bon, ça, c'est mon histoire personnelle avec la dépression. Si vous vous sentez comme que je viens de vous raconter dans mon histoire, ou si vous vous sentez le besoin d'aller consulter, ben dans le petit bloc qui va suivre, ben c'est ça que je vais vous donner. Je vais vous donner des traitements et des endroits où aller consulter, quand il faut aller consulter. Là, vous vous demandez, oui, mais quand est-ce qu'il faut aller consulter? Mais c'est simple. Moi, là, je vous dis, là, attendez pas qu'il soit trop tard. Attendez pas de plus être capable de faire vos activités du quotidien. Dès que vous sentez des symptômes, bien, parlez-en à votre médecin. Tout de suite, c'est important parce que si plus que vous allez attendre, mais plus ça va être difficile, mais difficile et long à guérir, puis à être pris en charge. Hein? Puis là, ben, si on veut éviter que ça devienne fatal, il ne faut pas attendre. Il ne faut absolument pas attendre. Vous sentez trop fatigué, vous sentez que vous êtes en détresse, vous sentez que vous êtes lourd pour les autres, que tout devient lourd, puis donc bien difficile à faire. Parlez-en donc à votre médecin. Appelez donc des ressources. En parlant de ressources, justement, là, allez vous chercher un papier et un crayon, là, tantôt, là, un petit peu plus tard, pas très long, mais quand même, je vais vous donner des endroits où vous pouvez appeler, justement, si on sent le besoin. Ça va pas bien. Je pleure tout le temps. Je vais vous donner des numéros de téléphone pour appeler. Fait que c'est ça, c'est là qu'il faut aller consulter. Dès qu'on se sent fatigué, puis que tout devient lourd, ou bien non, que je pleure à rien. Le ménage n'est pas fait, puis je me mets à pleurer. Allez donc en parler tout de suite. C'est important. Les traitements. Dans la majorité des cas, là, la dépression va se traiter facilement. Hein? Par une psychothérapie, puis par la prise de médicaments, des antidépresseurs, soit par la psychothérapie ou soit par les médicaments ou la combinaison des deux. Puis aussi, moi j'ai le goût de rajouter à tout ça, j'en ai parlé, là, mais en prenant des cours de croissance personnelle, ça va nous aider à avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. Puis comme quand on est en dépression, notre estime de soi est plutôt boboche, voire inexistante, ben prendre des cours de croissance personnelle, ben ça va nous aider là, à sortir la tête de l'eau puis de revoir notre estime de soi, voir comment on vaut finalement, puis de se refaire un cercle d'amis, puis de faire, ça va nous faire une petite sortie, puis voir d'autres mondes, puis ça va nous faire du bien. Puis, les antidépresseurs, ça va nous aider aussi. Mais évidemment, il ne faut pas les arrêter du jour au lendemain. Moi, j'ai pris de l'Ativan, là, puis si j'arrêtais ça du jour au lendemain, ça aurait été difficile. Faut pas les prendre trop longtemps non plus, parce que les accidents, après ça, j'aurais, mettons, donner cet exemple-là, mais si j'avais continué ça tout le temps, puis tout le temps, ben j'aurais peut-être été là-dessus tout le temps. Il y a beaucoup de tout le temps dans ce que je viens de dire, mais en tout cas, tu sais, ça aurait été difficile pour moi d'arrêter ça. Moi, dans mon cas, moi, j'ai demandé à voir une psychologue quand j'ai été arrêtée et on me fait voir une intervenante en santé mentale, une travailleuse sociale. Et ça a été amplement suffisant pour moi parce que je n'étais pas trop atteinte, j'imagine. Puis, bon, on ne se le cachera pas, là, les psychologues n'en mouillent pas. On a souvent des problématiques à en avoir, des psychologues. J'ai contacté mon CLSC. Ben, en fait, c'est avec l'entremise de l'intervenante que j'avais déjà pour ma fille. Bon, ben, elle m'a mis en lien avec une travailleuse sociale. Puis là, je l'ai suivie, ma travailleuse sociale, en plus de voir mon médecin. C'est un petit peu comme ça qu'on traite la dépression. En jasant avec quelqu'un de neutre. Puis là, ben, en prenant nos antidépresseurs. Les antidépresseurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rétablir un équilibre chimique au niveau du cerveau. Parce que là, c'est déséquilibré un peu parce qu'on est en dépression. Ça va diminuer aussi l'intensité des symptômes physiques. Ça va agir sur les émotions, sur la mémoire, sur la concentration. C'est important de prendre des antidépresseurs. Puis aussi, c'est important que si votre médecin vous a dit de prendre vos antidépresseurs de telle façon, bien, il faut suivre la posologie à l'heure qu'il faut les prendre. Puis tout ça, c'est important. Tant parce que bon, là, je me sens bien, là. Pas besoin de mes antidépresseurs. Une minute, là, viennent jouer un rôle dans ton cerveau, eux autres, là. C'est normal que tu te sentes bien. Si t'arrêtes de les prendre pendant 2, 3 jours, je te jure, tu peux dropper, là. Ben, c'est important d'y prendre comme le médecin vous a dit, puis d'y prendre le nombre de temps que les médecins vous ont dit. C'est pas pour rien qu'ils vous disent ça. Ils savent, eux autres, que si on arrête trop rapidement, ou on en saute une, ou sauter un antidépresseur, c'est pas si grave. Mais en sauter deux puis trois, à un moment donné, ça peut être grave. C'est important. Mais moi, par exemple, ça fait un bon bout que j'ai plus mes antidépresseurs, puis j'avais aussi un autre médicament pour m'aider à dormir. Et c'est sûr que ça laisse des traces, là, avec les médicaments pour arrêter de dormir, dont je me souviens plus les noms, là. Bien, ça me faisait des spasmes au niveau des jambes. Bien, ça, depuis, même si je ne prends plus ces médicaments-là, même si je prends plus les antidépresseurs, puis les médicaments pour m'aider à dormir, bien, ça m'arrive encore d'avoir des spasmes. À toutes les soirs, en fait, à toutes les soirs, j'ai des spasmes au niveau des jambes. Mes jambes, ils donnent des coups tout seul le soir. Après 2, 3 minutes, 5 minutes, puis après ça, c'est fini. Mais je suis restée avec ça. Mais écoute, vaut mieux ça que d'être en dépression, c'est ce que je me dis. Pas parce que ton médecin t'a prescrit une médication pour t'aider avec la dépression que, paf, demain matin, c'est fini, ton humeur va être égale, ça va te stabiliser. Tu vas être concentré, puis tu vas avoir une bonne mémoire. Mais non, ça va prendre normalement 1 mois, 2 mois avant que la médication fasse effet de façon maximale. Prendre de la médication, ça va venir souvent avec des effets secondaires. Mais si vous ressentez des effets indésirable de la médication. Vous pouvez en parler avec le médecin ou ben non, peut-être même le pharmacien. Mais là, à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait vous recommander d'autres choses. Bon, Là, ça, c'est une fois qu'on est dépressif. Mais est-ce qu'on peut vraiment prévenir la dépression? Bien, c'est sûr que si on a une bonne habitude de vie, on n'a pas des horaires trop chargés, on fait attention à tout ça, ça peut aider. Mais c'est pas toujours possible de prévenir la dépression. Parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, hein, ça peut être au niveau génétique ou, tu sais, fait que c'est pas toujours possible de prévenir. Puis de toute façon, on le voit pas venir nécessairement. Moi, dans mon cas, là, j'allais bien. Puis à un moment donné, ça fait ta! Non, je tire la plug. Et là, je le sais. Je les vois maintenant, les signes et les symptômes d'une dépression. J'ai pas le goût de retourner là. Fait que je vais éviter tout ce qui est en. Tu sais, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter ça. Maintenant, je vais peut-être pouvoir prévenir une autre dépression. Mais des fois, la première dépression, même des fois, même si ça fait plusieurs dépressions qu'on fait, c'est pas toujours possible de prévenir la dépression. Des fois, ça peut être un petit clac en arrière de la tête. Ah, tiens! Toi, il faut que tu arrêtes là, maintenant, tout de suite. Tu fonctionnes plus. Ça suffit. On arrête. Ton corps va te parler. Tu vas te mettre à pleurer. Tu vas te mettre à avoir de la misère à te concentrer. Puis tout ce que j'ai dit comme symptôme du jour au lendemain. Mais des fois, c'est après coup que tu fais. Ah oui, j'avais ça. J'avais ça comme signe. J'avais ça comme signe. Ah oui, ah oui. Mais le mieux, hein? Vaut mieux prévenir que guérir, mais des fois, c'est pas évident. Puis il faut, une fois qu'on le sait, par exemple, c'est peut-être plus facile de dire hey, je vais faire attention. Bon, là, j'espère que vous avez des papiers, des crayons, parce que là, c'est le temps de noter des ressources. Où est-ce que je peux appeler? Hein? Si j'ai besoin de parler à quelqu'un, comment? Où est-ce que j'appelle? Dans le fond, il y a REVIVRE. Ça, c'est une association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Fait que vous cliquez sur REVIVRE, vous allez là-dessus, vous allez avoir des informations là-dessus. Il y a le fameux TEL Jeune. Ça, c'est une ligne d'écoute pour les personnes de 5 ans à 20 ans. Le numéro de TEL Jeune, c'est le 1-800. 263 2266 TEL Jeune 1 800 263 2266. Il y a aussi la ligne d'aide et de prévention du suicide. Là, si ça va pas, tu pleures tout le temps, tu as le goût de mourir ou tu as le goût d'aller à l'autre bout du monde pour t'évader, tu peux être là, tu peux les appeler. La ligne d'aide pour la prévention du suicide, c'est le 1-866 appel. Donc, le 1-866-277-3553. Je répète, le 1-866-277-3553. Ça, ce sont des lignes d'écoute pour parler avec quelqu'un. Vous pouvez toujours appeler au 811 Info Sociale. Il y a quelqu'un qui va vous écouter à ce moment-là. Il y a quelqu'un au bout du fil. 811, t'appelles Info Sociale. Il y a quelqu'un pour vous parler. Et bien évidemment, là, appelez donc votre médecin de famille. Appelez votre CLSC aussi. Il y a quelqu'un là qui va pouvoir vous aider au CLSC. Vous vous rendez au CLSC. Vous leur dites, moi là, je vais pas bien. J'ai des idées noires, je me sens épuisée, peu importe. Il y a quelqu'un. C'est sûr que si vous appelez la police, par exemple, au 911, à place du fait, à place... À place À place d'avoir fait le 811, vous faites le 911, il y a des policiers qui vont vous appeler. C'est sûr que si vous avez pris quelques comprimés, c'est plus le 811 que vous faisiez, c'est le 911. Et là, il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge. Mais c'est important, mais important, ne pas rester seul dans un état comme celui-là. Vous avez plus goût de vie, vous vous sentez trop épuisé par la vie, appelez un ami, appelez quelqu'un à qui vous avez confiance, appelez un médecin, appelez Info Santé, votre CLSC, tel jeune, appelez n'importe qui pour parler. C'est important. C'est important. Vous avez fait une tentative de suicide. Appelez à l'aide. C'est important. Tu sais, être déprimé, être en dépression, c'est pas un signe de faiblesse. Hein? Ça veut dire qu'on a essayé trop longtemps de rester fort. Sur ce, là, je pense que c'est un petit peu mon mot de la fin. Moi, ouais. J'ai le goût de vous dire que faut pas essayer de rester trop longtemps fort, mais il faut demander de l'aide avant de tomber. Vous n'êtes pas trop déprimé suite à l'écoute de cet magnifique épisode. En tout cas, pour moi, là, c'était un réel plaisir de vous partager toute cette expérience. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout ce 7e épisode de Parlons santé mentale. Et afin d'être là pour la prochaine fois, là, il y a juste une petite chose que vous avez à faire. C'est de cliquer sur le petit bouton suivre ou encore s'abonner. Ça va se trouver juste en bas du logo du balado. Si vous éprouvez de la difficulté à faire ça, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui vous a emporté sur le balado. Ensuite de ça, vous allez avoir un petit bouton, exemple Spotify. Là, vous cliquez sur Spotify. Et puis, par la suite, vous n'avez qu'à faire me connecter via mon Facebook. Puis, là, vous allez pouvoir sélectionner, suivre ou s'abonner. Parce que mon balado, il est diffusé sur différentes plateformes comme Spotify ou encore Google Podcasts ou Breaker. Alors, vous avez tout simplement à soit télécharger l'application ou soit vous connecter via votre Facebook. Et puis là, ben, comme je l'ai mentionné, vous avez juste à sélectionner suivre ou s'abonner. Parce que c'est sûr et certain que vous voulez être là au prochain épisode. En parlant de la 8e épisode, je vais parler de quelque chose de assez lourd, assez difficile, je vais parler du suicide. C'est pas évident. C'est pas évident pour personne. Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont des idées suicidaires vont nécessairement écrire des petites lettres? Est-ce que c'est vrai qu'ils vont changer du tout au tout leur comportement? Exemple, qu'ils vont tout vendre du jour au lendemain, qu'ils vont nous parler d'un voyage mystérieux? Bien, pour le savoir, soyez au rendez-vous dans 2 semaines, soit samedi le 15 mai à 13h. On va en discuter. Sur ce, là, je vous dis, entre-temps, là, prenez donc soin de vous, hein, et de votre santé mentale. C'est super important. Puis je vous dis que je vous aime et on se retrouve dans 2 semaines. Là-dessus, je vous dis ciao!